Gloire à Dieu. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Osée chapitre 2, verset 16. Nous allons lire simplement un verset dans l'Ancien Testament, après nous irons dans le Nouveau. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je le répète. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi. » Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char ». Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Voilà, ce soir j'aimerais m'arrêter sur ce passage avec vous, et j'aimerais que l'on s'intéresse à cet Éthiopien. Afin de comprendre que ce qu'il lui est arrivé, eh bien, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Nous avons vu cette rencontre particulière que cet Éthiopien a fait, comment Dieu a conduit les choses pour que cet Éthiopien puisse ouvrir les yeux, réaliser qui est Jésus-Christ et faire sa rencontre. Cet Éthiopien n'a pas seulement fait la rencontre d'un homme, Philippe, il a fait la plus grande des rencontres. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le disait Michael, oui, plusieurs d'entre nous sont venus, ont vu, ont goûté combien l'Éternel est bon. Et plusieurs ont fait cette démarche, la même que cet Éthiopien, de oui, rencontrer Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Nous voyons dans ce passage donc cet Éthiopien. On comprend d'où il venait. Il venait d'Éthiopie. C'est quand même intéressant de s'arrêter sur cela parce que ça nous donne de comprendre le voyage que cet homme a fait pour venir jusqu'à Jérusalem, l'Éthiopie qui est bien en dessous de l'Égypte. On voit ce parcours qu'il a fait. À l'époque, vous l'avez compris en lisant ce passage, il n'y avait pas d'avion. Les avions pour se déplacer n'existaient pas et ce voyage a été très long, il a été périlleux, il a été risqué. Mais il nous montre une chose, il nous montre l'attitude de cœur qu'avait cet Éthiopien, le désir, la soif, la recherche qu'il y avait dans son cœur. Il était Éthiopien, un eunuque, il nous est dit. C'est pas évident de saisir la définition, on peut la comprendre, la définition d'un eunuque, mais elle a plusieurs sens. Un eunuque, ça peut être quelqu'un qui est, le dictionnaire nous dit castré, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des responsabilités, de grandes responsabilités militaires, grandes responsabilités au niveau de l'État. Et donc c'était la situation de cet homme, nous avons lu, donc c'est pour vous expliquer, un eunuque, ministre de Candace, hein, c'était un homme qui avait une position... une position sociale élevée, ce n'était pas, voilà, on va dire, quelqu'un du peuple, il avait un rang social élevé, on pourrait faire une comparaison avec nous aujourd'hui, c'était un homme, on pourrait dire, d'État, comme le Premier ministre de notre pays. Il avait une grande responsabilité, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Cet homme avait de lourdes responsabilités, il avait certainement des moyens, c'était quelqu'un de aisé, et donc il avait cette position. C'est pour comprendre par la suite l'attitude de cœur qu'il va y avoir dans sa vie et l'exemple que cet homme nous laisse. C'est pour cela que je vous donne ces précisions-là, que ça puisse eh bien, nous donner de saisir la même démarche. Cet homme est donc... était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Et on voit dans cela vraiment cette ouverture de cœur qu'il y avait dans cet homme. Il y avait cette recherche de Dieu, ce désir de faire sa volonté, de lui être agréable, cette recherche profonde. Je le rappelle, ce voyage vraiment long, important et périlleux nous montre cette attitude qu'il y avait dans son cœur par rapport à Dieu. Parce qu'il n'est venu à Jérusalem que dans un seul but, la Bible nous dit, c'était simplement pour adorer. Il y avait dans son cœur ce profond respect par rapport à Dieu. Et c'est là quelque chose d'exemplaire qu'il nous faut vraiment retenir, parce que c'est de là que par la suite tout va découler. On voit qu'il y avait une recherche profonde de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Et nous avons vu comment par la suite Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui donner de saisir la vérité et de véritablement rencontrer Jésus-Christ. On voit que cela s'est passé au travers de donc un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, Philippe, qui a été conduit, qui a entendu un ange qui lui a parlé, qui lui a indiqué d'aller sur ce chemin, là où cet Éthiopien se trouvait. Et il y a une précision qui nous est donnée sur ce chemin, vous l'avez certainement remarqué. Ce chemin, c'était un chemin désert. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et nous avons lu dans l'Ancien Testament ce verset. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est là où Dieu a parlé à cet homme. C'est là dans le désert que Dieu s'est révélé à cet Éthiopien. Et Dieu est celui qui, encore aujourd'hui, nous donne de réaliser qui il est dans nos déserts. Dans le désert, Dieu parle. Dans le désert, Dieu parle. On le voit à plusieurs reprises dans la parole. Il y a ce verset dans l'Ancien Testament où on voit le désir de Dieu de nous conduire, de créer des circonstances afin d'entendre sa voix, afin de réaliser qui il est, afin de pouvoir n'avoir plus qu'une seule chose à faire, c'est nous tourner vers lui. Et Dieu parle dans les déserts. On a plusieurs passages qu'on pourrait prendre dans la Bible qui nous montrent cela, plusieurs hommes de Dieu qui ont fait cette expérience. On pense à Abraham, à Moïse, à David. Ce sont des hommes qui ont entendu la voix de Dieu dans le désert. Dieu leur a parlé, Dieu les a interpellés, Dieu les a conduits dans ce qu'il voulait pour eux. J'ai pris simplement ce psaume que David a écrit, qui nous montre que lui aussi, à un moment donné, un temps de sa vie est passé par un désert. Le psaume 63, il nous est dit cette précision au début de ce psaume, un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » C'était là l'attitude de David. Alors qu'il était roi, alors qu'il était le roi de Jérusalem, il s'est retrouvé dans un désert. Il y a eu une situation dans sa vie, des circonstances qui ont fait que, à un moment donné, il s'est retrouvé dans un désert. C'était pas sa place, on pourrait se dire. Le désert, pour un roi, sa place était à Jérusalem, dans le temple, dans sa ville. Mais il s'est retrouvé là, dans ce désert. Et dans ce désert, il a fait une expérience extraordinaire, merveilleuse. Il a aussi rencontré Dieu. Il a pu recevoir de Dieu le secours de Dieu. Il a pu recevoir la délivrance. Il a pu être comblé par la grâce de Dieu. Parce que dans ce désert, il s'est appliqué à chercher Dieu, à chercher Dieu. Et il ne s'est pas appliqué à chercher des méthodes, des solutions humaines. Non, il s'est concentré seulement sur une seule chose, chercher Dieu. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, on voit cette prière. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » C'était là l'attitude de David. Et c'est là ce qu'il nous faut retenir, dans le désert et dans nos déserts, quels qu'ils soient. On ne sait pas si ce désert dans lequel il était, David, ça a été à cause de ses erreurs ou si ça a été conduit par Dieu, permis par Dieu. Il y a des déserts où on se met nous-mêmes. Il y a des déserts où, à cause de nos mauvais choix, à cause de notre endurcissement par rapport à Dieu, le fait qu'on ne veuille pas l'écouter, le fait qu'on le mette à la porte de nos cœurs, qu'on le rejette, eh bien, nous donne de marcher dans le désert sans savoir où on va, sans avoir de but. Mais il y a des déserts où, c'est les circonstances. On fait les bons choix. On peut avoir ce cœur tourné vers Dieu, mais Dieu peut permettre des déserts dans nos vies, afin que justement on puisse expérimenter sa parole, son secours. Il est souverain et tout ce qu'il fait est parfait. Il contrôle tout, il maîtrise tout parfaitement. Et justement, il crée des circonstances afin justement que nous soyons toujours proches de lui. Parce que c'est ce qu'il veut, que nous ne nous égarions pas, que nous ne demeurions pas dans le désert, que nous ne soyons pas en train de tourner en rond dans le désert. Et on pense au peuple d'Israël qui a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, parce que justement ils n'avaient pas écouté Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui perdent beaucoup d'années de leur vie et qui tournent comme ça en rond. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut vraiment nous donner, oui, de le mettre à la première place, de le chercher. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. C'est là ce qu'il nous faut nous appliquer à faire. Chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas ce qu'un homme dit, c'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est pas simplement des belles paroles. Si dans nos vies, il y a cette application pratique, s'il y a cette attitude concrète, si dans ma vie, je me mets à chercher Dieu en premier, si je le mets à la première place, si je me focalise sur lui, eh bien je verrai Dieu intervenir dans ma vie. Je le verrai changer mon cœur, transformer ma vie, me donner, oui, comme David, recevoir cette abondance, être comblé de sa grâce, comme cet Éthiopien, rencontrer véritablement Jésus-Christ. Mais il y a une part, c'est de le chercher, c'est de le chercher. Et quand on le cherche, la Bible nous l'assure, on le trouve, c'est certain. Ce qui est merveilleux, extraordinaire, c'est que, quels que soient nos déserts, quelles que soient les situations de vie, moi je ne vous connais pas, mais Dieu sait, il connaît toutes choses, il connaît parfaitement votre vie, il sait où vous en êtes. Et peu importe les déserts par lesquels vous pouvez passer, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 107, verset 35, que Dieu change les déserts. Il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. C'est quand même extraordinaire, merveilleux. C'est là la réalité, c'est des paroles qui peuvent être imagées, mais il y a une réalité concrète pour nos vies, pour chacune de nos vies. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Ésaïe 43, verset 19 nous dit aussi, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Voilà la parole de Dieu, voilà ce qu'il fait.
Voilà ce qu'il fait. Il l'a fait. Il l'a accompli. Et dans le désert, quel que soit notre désert, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin que Dieu a placé dans le désert. Un chemin tout tracé. Afin que, oui, nous marchions vers lui. Afin que nous nous avancions vers lui. Il y a des fleuves qui sont là, dans la solitude, qui sont à notre disposition. Qui sont à notre disposition réellement pour que nous soyons, je le redis, épanouis dans notre vie. Mais pour cela, il y a une deuxième attitude. J'ai parlé de chercher Dieu premièrement, mais il y a une deuxième attitude que nous devons avoir, c'est reconnaître nos déserts. C'est reconnaître nos déserts. Nous avons vu ce passage avec cet Éthiopien. Et cet Éthiopien n'a pas trouvé de réponse à Jérusalem. De réponse qui a vraiment comblé son cœur. Il est parti à Jérusalem pour faire ce qu'il voulait. Il voulait adorer Dieu. Il est parti là-bas, il a fait ce qu'il avait à cœur de faire. Mais il ne s'est pas passé quelque chose de particulier à Jérusalem. Ce n'est pas dans le temple de Jérusalem qu'il a trouvé une réponse à ses besoins, qu'il a trouvé la vérité. Parce qu'on sait que très certainement, il est allé dans ce temple à Jérusalem. Il partait à Jérusalem pour adorer. Et à Jérusalem, il y avait ce temple qui était bâti, qui a été construit par Salomon, justement pour que toutes les personnes qui croient en Dieu viennent à adorer, se prosterner, chercher Dieu. Mais ce n'est pas dans ce temple qu'il a trouvé Dieu. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent et s'égarent. Beaucoup de personnes vont chercher Dieu dans un lieu. Ils vont chercher Dieu dans un temple, dans certains lieux. Alors, comprenez ce que je dis. Parce que, bien entendu, qu'on peut trouver Dieu dans un temple. Bien entendu que je bénis le Seigneur pour des lieux comme celui-ci, où justement on peut entendre sa parole et recevoir ce qu'il veut nous donner. Mais il y a des personnes qui attachent plus d'importance à un lieu, à un bâtiment, qu'à Dieu. Il y a des personnes qui sont plus attachées à un lieu qu'à Dieu. Et il nous faut faire la différence. Ce n'est pas une question de géographie. Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grands édifices, de grandes cathédrales, églises. Cette église, elle est toute simple. Mais nous savons que Dieu est présent partout. Et qu'on peut le trouver partout, que ce soit ici, que ce soit chez vous, dans votre chambre, tout seul. On trouve Dieu partout. Ce n'est pas un problème de géographie. Il ne faut pas être attaché à un lieu. Plusieurs personnes courent certains lieux où il s'est passé soi-disant certaines choses, où Dieu est intervenu soi-disant d'une manière particulière. Mais ce n'est pas un lieu qu'il faut chercher. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour trouver Dieu. Il n'y a pas besoin de dépenser toutes sortes d'argent, de temps, d'énergie pour trouver Dieu. Ce n'est pas une question de géographie. Je parle même que Dieu parle dans le désert. Mais ce n'est pas non plus dans un désert que l'on trouve Dieu. Il n'est pas besoin d'aller dans un désert physique. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Pas besoin d'aller dans un désert physique pour trouver Dieu et se dire « Là, je suis dans un désert, il n'y a plus rien autour de moi, je vais entendre Dieu, je vais me mettre dans une caverne, je vais aller dans les rochers, je vais aller m'isoler dans une cabane et je vais entendre la voix de Dieu dans le désert. » Non, il n'y a pas besoin d'avoir ces attitudes-là. C'est pas dans ces choses-là qu'il faut tomber, ce serait une erreur. Cet homme n'a pas trouvé ses réponses dans ce lieu géographique à Jérusalem, dans ce temple. Dieu s'est révélé à lui parce qu'il y avait dans son cœur cette recherche sincère et profonde, ce cœur ouvert pour chercher la vérité. Cet homme n'est pas tombé par la suite, il a reconnu, je reviens sur ça, reconnaître ses déserts. Cet homme n'est pas resté sur ses positions, sa position sociale. Il aurait pu rester sur ça, dire je n'ai besoin de rien. Sa position sociale qui lui donnait certainement de bons revenus. Il aurait pu rester sur ça, dire j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien, j'ai des moyens, je peux m'offrir tout ce que je veux. Combien de personnes ne réalisent pas leur désert à cause de biens matériels et se croient dans l'abondance alors qu'ils sont dans la pauvreté, dans la pauvreté, une pauvreté spirituelle. Mais combien de personnes, malheureusement, ça éloigne de Dieu. Ne tombons pas là non plus dans ce piège. Cet homme est un exemple, cet eunuque. Il n'est, alors qu'il avait une position haute, socialement, certainement de bons revenus, il n'a pas pris cette position. Il a reconnu son désert. Il a reconnu son désert. On le voit dans cette attitude. Alors que Philippe va venir vers lui, alors que Philippe va être conduit par le Saint-Esprit à venir vers ce char, poser cette question, comprends-tu ce que tu lis ? Nous voyons cet Éthiopien à ce moment-là reconnaître son désert. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Dans cette question, dans cette réponse, nous voyons que cet eunuque, cet Éthiopien, reconnaît son désert. Et c'est là une attitude qu'il nous faut pour saisir la grâce de Dieu, pour saisir ce qu'il veut nous donner. Qu'il y ait vraiment cette attitude d'honnêteté. Qu'il y ait cette attitude, oui, d'admettre eh bien, la solitude de nos cœurs, d'admettre le vide de nos cœurs, d'admettre que nous ne sommes pas comblés, d'admettre que nous avons besoin de quelqu'un, que nous avons besoin d'être éclairés, que nous avons besoin que quelqu'un nous guide. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Voilà l'attitude d'humilité qu'a eu cet eunuque. Et il n'y a que par là que nous pourrons eh bien, saisir ce que Dieu veut. Et par la suite, eh bien, Philippe, conduit par Dieu, a pu lui donner d'être éclairé au travers de la parole de Dieu. Cet homme était en train de lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 53. Et on pourrait prendre ce livre ensemble, on pourrait lire ce passage. Ce passage impressionnant de par ses précisions. Ce passage qui nous dit à partir du verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ce passage nous parle de Jésus-Christ. Il nous parle précisément de son œuvre à la croix pour chacun d'entre nous. Cet Éthiopien s'est posé la question, et l'a posée à Philippe. De qui, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? Ce passage parle clairement de Jésus-Christ. Et ce passage a été écrit plus de 700 ans avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre. Et ce passage nous donne de réaliser, oui, l'œuvre d'amour, l'œuvre de grâce que Jésus-Christ a accomplie pour chacun d'entre nous. Michaël nous en a parlé pendant les chants et nous l'avons chanté. Michaël nous disait que Jésus-Christ était, oui, on disait cette image comme un paratonnerre qui a pris la foudre et qui nous a donné, nous, de ne pas la prendre et d'être protégés, de pouvoir recevoir la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés, alors que nous méritions la colère, alors que nous méritions la mort éternelle, parce que c'est le salaire du péché et nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de Dieu, nous avons tous besoin d'un sauveur, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu lui-même s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Et ce passage nous montre ce qu'il a pris sur lui. Il a pris nos péchés, nos maladies, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons libérés. Jésus-Christ a tout accompli, il a payé le prix, il a payé le prix. Pour chacun d'entre nous, pour toi, pour ta vie. Cet homme a pu recevoir ce message, cette bonne nouvelle, parce que c'est réellement une bonne nouvelle. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Et ce soir, il ne veut pas que tu repartes de ce lieu en étant toujours accablé par la culpabilité, par ton fardeau, par le péché, mais il veut te donner de repartir de ce lieu tout joyeux comme cet Éthiopien. Il veut te donner de repartir de ce lieu, oui, dans la joie d'être sauvé, dans la joie d'être pardonné, d'être en relation avec Dieu, et bien davantage, parce que Dieu fait de grandes choses. Il délivre, il guérit, il restaure, il guérit les cœurs brisés, il guérit les corps malades, il a tout pouvoir, à lui tout est possible, il change les temps, les circonstances, tout est entre ses mains, les déserts, il les change, nous l'avons lu. Mais il doit y avoir dans nos cœurs cette attitude, cette dernière que cet Éthiopien a eue. Après, justement, cette bonne nouvelle, après avoir entendu ce message, le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, eh bien, cet eunuque a interpellé Philippe et lui a dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui a dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » La parole de Dieu nous appelle à croire en Dieu, à croire Dieu. Pas simplement à croire que Dieu existe. Croire, c'est faire confiance. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Faire confiance à Dieu jusqu'à tout lui remettre. Jusqu'à lui remettre notre vie entre ses mains. Il est notre Père. Il est celui qui veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun de ses enfants. Et il n'y a aucune peur, aucune retenue à avoir, à s'engager. Oui, par les eaux du baptême, la Bible nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et cet homme a saisi cela. Cet homme a plus que oui cru que Jésus avait existé, que Dieu existait. Non, il a choisi de placer sa foi entière, sa vie entre les mains de Dieu, choisi de se laisser conduire et diriger par Jésus-Christ, le guide qui nous donne de oui marcher sur le chemin qui mène à la vie sur cette terre et qui nous donne de oui de pouvoir hériter la vie éternelle. C'était là l'attitude de cet homme. Il a choisi de marcher dans l'obéissance en demandant de se faire baptiser. C'est ce que cet homme a démontré, l'attitude d'obéissance qu'il y avait dans son cœur. Et c'est cela, croire en Jésus-Christ. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Croire Jésus, c'est lui faire confiance, tout remettre, mais c'est obéir. Et c'était là la dernière attitude de cet homme qui lui a donné, oui, de recevoir une pleine grâce, un plein pardon, un plein repos, une pleine restauration, une pleine bénédiction. C'est ce qui lui a donné de repartir tout joyeux. Et je le répète, c'est ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Il n'y a aucune différence entre ce que cet homme a vécu et ce que Dieu veut pour nous. Soyons-en certains, réalisons la parole de Dieu maintenant pour chacun de nous. Réalisons ce que Dieu nous appelle à faire. Réalisons ce que Dieu veut. Quelle grâce ! La Bible nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous allons prier. Nous allons reprendre un dernier cantique. Mais réalisons maintenant que, oui, le Seigneur nous appelle à agir. Il nous a parlé, cette réunion va bientôt se terminer, mais il y a un choix à prendre, tu as un choix à prendre, et Dieu t'appelle à prendre une décision. Dieu te donne la grâce, oui, comme cet Éthiopien, de réaliser la vérité. Réaliser, oui, ce que Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix. Réaliser que c'est pour toi personnellement qu'il a donné sa vie, qu'il a pris sur lui tes péchés, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois sauvé de l'enfer, afin que tu sois sauvé de la mort éternelle, afin que tu sois réellement libre. Et simplement, dans ce lieu maintenant, tu peux prendre cette décision, oui, avoir cette ouverture de cœur, de placer ta foi en Jésus-Christ, de placer ta confiance en lui, et de prendre la décision de lui obéir. Pendant ce dernier cantique, vous pouvez prendre la liberté. Nous ne forçons personne parce que Dieu lui-même ne nous force pas. Dieu ne te force pas. Dieu ne te force pas à l'accepter. Dieu ne te force pas à t'avancer. Dieu ne te force pas à recevoir cette immense bénédiction, son immense amour. Mais il t'appelle à le recevoir. Ce soir, ne passe pas à côté. Et ce soir, sans forcer qui que ce soit, nous vous donnons simplement la liberté de vous avancer sur le devant et nous prierons pour vous. Prierons afin que le Seigneur, oui, remplisse vos vies, vos cœurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu et comme Philippe, le Seigneur nous utilise. La Bible nous dit que, oui, en mon nom, il parle de ses disciples, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Dieu est celui qui veut se manifester dans ta vie. Alors ce soir, simplement avance-toi vers lui, que ce soit sur ta chaise, que ce soit en venant sur le devant, avance-toi, ne reste pas en recul, ne retiens rien, mais avance-toi et remets entre ses mains ta vie. Et tu verras certainement, assurément, la gloire de Dieu, sa puissance se manifester dans ta vie.